I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans We Love Series, votre rendez-vous dédié aux séries, d'où le nom. Du coup, c'est plutôt pratique, un podcast We Love Cinéma. Et dans We Love Series, eh bien, on reformate pour encore plus de plaisir. J'ai un peu volé ce slogan à un autre type de produit, mais je me suis dit qu'ici, ça marchait bien aussi. Désormais, en première partie de ce show que le monde entier nous envie, l'actu des séries, une œuvre décryptée avec talent et acuité par l'un de nos chroniqueurs émérites. Et ensuite, un invité de prestige viendra décortiquer sa série culte. Et pour ce premier We Love Series rebooté, l'acuité, ce sera Renan Crowe, journaliste, professeur, mannequin sourcil à ses heures perdues. Et le prestige, ce sera François Descraques, créateur entre autres du Visiteur du Futur, de Deadland, de Dark Stories, de Mystère à Saint-Jacques. Et ben, tout comme aussi de ce que Wikipédia appelle l'effet Descraques. J'aime bien le dire parce que ça claque, c'est écrit sur sa page Wikipédia.
Mais bizarrement, il est mieux présenté que moi, lui, hein, j'ai l'impression. C'est l'effet
Descraques, c'est quand d'un seul coup, il y a beaucoup de web-séries, si j'ai bien compris, François.
Oui, ça a causé le malheur de beaucoup de parents. Voilà,
et le bonheur de beaucoup d'entre nous.
Voilà.
Donc pour tout ça, merci. Et toi, tu prends la parole,
je t'ai
même pas dit bonjour.
Bonjour.
Ben, c'est le mannequin sourcil. J'avais rien de plus.
Ah, il n'a pas changé. Hein.
Vous avez le droit d'interagir, tous
c'est
les deux, mais ce sera décompté de votre temps de parole. Et passons donc à l'actu du jour. Disponible sur Netflix et au programme aujourd'hui Lock and Key, d'après le comics écrit par Joe Hill, le fils de Stephen King et choronné par Carlton Cuse, l'un des hommes derrière Lost, et hop, le point Lost est atteint dès la
tout
première
suite. Ah, ouais, d'accord.
Une drôlement chouette série. Alors bon, ce que je vais vous raconter du coup n'a rien de très chouette, mais après le meurtre de leur père dans d'étranges circonstances, les frères et sœurs Lock emménagent avec leur mère à Key House, leur maison ancestrale où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père.
Hey, check it out. We're here.
Welcome to Key House.
I could never get your father to talk about his life here. My kids need a home.
Does it have to be this home?
Hello? Are you my...
Renan Crowe, on dit quoi? On dit série de science-fiction ou coming of age story?
Eh ben, on dit coming of science-fiction. Je sais pas très bien.
Le mec veut pas trancher.
Non, non, mais c'est très bizarre comme série parce que moi, je trouve que c'est une série chausson. C'est-à-dire, c'est une série dans laquelle on met ses pieds comme ça, ou ses mains, comme vous voulez.
Donc le concept du chausson,
voilà.
En quelque sorte.
Et on est à la maison, on est content, c'est-à-dire
c'est,
que...
C'est soit ses pieds, soit ses pommes.
Oui, ça c'est vrai. C'est
ou alors c'est une série moufle.
C'est une série moufle, peut-être.
Mais on met pas ses pieds, du coup.
Bah, mais est-ce qu'on est à l'aise dans des moufles? Est-ce qu'on est plus à l'aise dans des moufles que dans des chaussons? Je lance le débat, répondez tout de suite, on attend
mais
vos appels.
Je vois très bien ce que tu veux dire, c'est une série extrêmement confortable.
Oui, et en même temps, qui part d'un comics qui ne l'est pas du tout. Et en fait, c'est là, ce qui a beaucoup dérangé avec là, les premiers retours sur la série, c'est que le comics est extrêmement brutal, violent, glauque, avec vraiment des personnages très très durs et un très 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 dur. Et Netflix, en se le réappropriant, il faut savoir quand même que c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, qu'il y avait eu un premier pilote de la série qui avait été annulé. En gros, c'était un peu le truc inadaptable. Et tout d'un coup, ils réussissent à le reformuler via Carlton Cuse. Carlton Cuse, on connaît pour
l'homme derrière Lost.
Exactement, l'homme derrière Lost. Et donc, qui a appliqué, en gros, la formule Lost à Lock and Key, c'est-à-dire de faire du fantastique, non pas simplement un vecteur de récit, mais de faire du fantastique un portrait des personnages. C'est-à-dire que via le fantastique, on a le portrait intime des personnages et on a en fait un récit qui est un récit sur le deuil et sur le passage, évidemment, de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte. Et donc, tout d'un coup, moi, ce que je trouve très, très beau, et très émouvant dans cette série, c'est que je suis en grand 8 total sur la science-fiction, sur la fantastique. Ça se mélange un peu dans la série, parce qu'il y a vraiment des éléments très fantastiques. Et puis parfois, vers la fin, ça se rapproche d'une espèce d'idée de science-fiction. Et ben petit à petit, comme ça, ce grand 8, il est retravaillé par l'intime, par des émotions, par en gros, moi, ce que j'adorais dans Dawson, c'est-à-dire la mélancolie adolescente. Donc pour moi, c'est vraiment le mélange entre ce que j'adorais dans The Haunting of Hill House, par exemple, ou même dans de grandes séries fantastiques, et cette espèce d'adolescence pop qui est celle de Lock and Key, où la mélancolie vient de... On tourne des films à la maison, ça devrait plaire à notre invité. C'est-à-dire l'idée de tourner des films quand on est adolescent, de se raconter des histoires, de se faire peur. Et tout d'un coup, il y a vraiment ça dans la série.
Alors, tu disais c'est moins noir que le comic, certes, mais... Précisons quand même que c'est pas fait non plus pour les trop petits, parce que la scène de meurtre du père est quand même là.
Oui.
On est dans c'est ça qui est très étrange en fait, c'est-à-dire qu'avant de partir en science-fiction, c'est quand même ancré dans une réalité qui est hyper
c'est traumatique.
Brutale.
Mais comme Lost, c'est une série traumatique.
Oui,
c'est une
sûr.
Série traumatique. Mais après, par exemple, François, vous qui avez fait Deadland, vous savez la
tu
difficulté. Bah, je sais pas, je le vois, je le tutoie.
J'adore.
Mais moi, c'est mon côté journaliste.
Alors, Monsieur Descraques.
Non mais François, toi qui as fait Deadland, ouais. Tu sais la difficulté de tenir du fantastique et des personnages en même temps. Et donc, moi, je trouve que c'est là la réussite, c'est que ça tient, alors vraiment, ça ne devrait pas tenir.
Bah, c'est ça le plus dur, c'est de quand on a fait Deadland, on a mis beaucoup de temps à trouver le mélange fantastique-réalité, quelle était la mythologie de la série, et surtout quelle part on allait expliquer ou pas expliquer. Et c'est vrai que plus tu l'expliques, plus ça vient plutôt de la science-fiction dans ce cas-là.
Ouais, c'est là où Lock and Key joue avec ça, parce qu'il y a un mécanisme, donc il faut comprendre qu'il y a des clés qui font de l'ASMR aux enfants,
elle murmure. Le petit garçon qu'on a entendu appeler son écho, il se trouve que l'écho en question est une jeune femme qui envoie donc ce petit garçon récupérer des clés qui se trouvent partout dans la maison et des clés qui donnent accès à des endroits auxquels, normalement, tout être normalement constitué n'a pas accès.
Exactement. Et donc
ses souvenirs, son cerveau.
Et donc il y a toujours un mode d'emploi en fait. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a un jeu de mode d'emploi, comme la science-fiction, on va nous expliquer à quoi servent ces clés, comment elles fonctionnent. Mmh. Et donc, il y a un côté très didactique qui est, à mon avis, problématique pour certaines personnes. C'est-à-dire que c'est trop lent et ça raconte petit à petit les choses. Mais en même temps, je trouve ça tellement agréable. On vit tellement dans une ère où la série télé est tellement compliquée, où c'est tellement intelligent, que là, il y a presque un côté low profile de la série où, en fait, on suit ces personnages, on suit la découverte des clés. J'ai poussé des petits cris à chaque
découverte. Low profile, mais pas cheap. Hein.
Non, mais
c'est plutôt bien réalisé.
En fait, pour moi, c'est une série des années 90, voire même, alors on va dire une série des débuts des années 2000. C'est-à-dire vraiment une série qui fonctionne sur le plaisir de la narration des personnages. C'est pas extrêmement politique, c'est pas extrêmement complexe, mais en même temps, je suis à la maison, je suis content de les retrouver et je veux savoir ce qui se passe ensuite.
Non, mais ça tient aussi, ce qui marche bien, ça tient au mélange très réussi de tout ce qui se passe effectivement à base de SF dans la maison et le quotidien de ces gens qui effectivement ont un deuil à vivre, à réparer, à apaiser. C'est-à-dire que le collège est plutôt pas mal. Je trouve que même les éléments de SF qui viennent s'appuyer sur ce qui se passe généralement dans les collèges et dans les lycées marchent assez bien.
C'est-à-dire
que la boulie, d'un seul coup, on va s'en servir aussi pour en faire de la SF. Enfin, tout marche assez bien. Je trouve que tout s'imbrique bien. Même la maman, l'espèce de mère courage dont on sent qu'elle a un pet au casque, on sait pas bien quoi, on l'apprend en cours de route et qui, elle, en même temps, un peu tenu à l'écart de l'intrigue, parce qu'il se trouve qu'il n'y a que les enfants qui entendent les clés, sinon ce n'est pas drôle. Ça marche assez bien.
On aurait diffusé cette série lors de la trilogie du samedi, tout le monde aurait trouvé ça normal.
Ouais.
Il y a ce côté-là, c'est-à-dire, je sens que ça parle à François, la trilogie du samedi.
Oh oui.
Il veut parler de Buffy après.
Je
suis venu pour ça.
Mais non, mais j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et en même temps, c'est difficile parce qu'effectivement, quand on relit les comics, ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes. Et ce qui est assez fort, c'est que le travail d'adaptation. En fait, on peut lire les comics et voir la série, et c'est deux salles, deux ambiances, et c'est presque deux histoires différentes. Il y a vraiment des choses qui apparaissent dans la première saison de Lock and Key sur Netflix, qui apparaissent de manière très tardive dans les comics. Et donc, c'est vraiment, je trouve, une adaptation assez brillante pour ça, parce que l'un n'empiète pas sur l'autre. C'est vraiment un dialogue entre les deux.
Oui, et puis encore une fois, ce qui est aussi très agréable, et ce qui a aussi été reproché à la série, c'est-à-dire qu'on a accusé un peu la série de surfer sur le succès de Stranger Things, parce que tout se joue à hauteur de gamins.
Oui, mais bon, il y a eu des gamins avant Stranger Things. Enfin, il y a un moment.
Les Goonies, par exemple.
Oui, les Goonies, voilà. E.T.
Non, mais voilà. C'est...
En même temps, c'est pas
le
du
mélange
tout...
SF et gamins qui vivent leur adolescence.
C'est pas du tout le même ton et la même tonalité, le même rapport au récit. Ça va deux fois moins vite que Stranger Things. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Stranger Things, quand on explique que c'est un pastiche de série des années 80-90, c'est pas du tout le même rythme. C'est-à-dire qu'il y a un truc dans Stranger Things très très contemporain, de rythme, de personnages qui avancent. Là, il y a presque un truc. Il y a des épisodes dans Lock and Key où il se passe pas grand chose et c'est cool, on est content.
Et où la terreur tient à une jeune femme absolument splendide, ce qui est très étrange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apparition de monstre, il y a juste cette nana qui arrive et quand elle est là, c'est.
C'est un truc de conte de fées en fait. C'est un truc de conte de fées, de grands méchants loups, de personnages qui sont. Surtout, elle a un pouvoir qui est assez génial, donc elle a récupéré une clé qui fait que quand elle ouvre une porte, elle peut rentrer dans n'importe quel autre endroit. Et ça, c'est chouette, quoi. Il y a un truc de gamin.
La menace est imminente.
La menace est imminente. La maison est. Enfin, vraiment, il y a un truc dans cette série que je trouve rare, c'est-à-dire de décroissance presque
et
de la série.
Et les mômes sont bien. Ils sont vraiment bien.
Et il y a Connor Jessup
Connor
qu'on adore.
Connor Jessup, Emilia Jones et Jackson Robert Jones qui jouent le tout petit.
Et c'est des acteurs super. Il y a vraiment un... Alors après, effectivement, Netflix, on en a un peu marre parce qu'on a l'impression que ça s'adresse toujours à une tranche qui va de 15 à 25 ans. C'est-à-dire que... Des...
On est pile poil le... Ah non.
Si. Pourtant. Si, laissez-moi parler, Charline. J'ai toujours 25 ans, je suis Catherine
Deneuve. Mais en plus, je trouve que ça se joue de codes hyper connus dans... dès que tu veux créer de l'angoisse en fait, et qu'il y a un enfant qui est plus petit que les autres. Bah, évidemment, c'est lui qui a tout compris depuis le début. Et c'est évidemment celui qu'on n'écoute pas et que de préférence on laisse tout seul.
Ouais, mais c'est chouette d'avoir ça, d'avoir. En fait, il y a un côté réactivation de clichés, de récits, qui, contrairement à Stranger Things, ne joue pas sur une fonction doudou, mais joue sur, au contraire, sur une fonction de plaisir du conte de fées. C'est-à-dire vraiment, il y a vraiment une structure de conte avec des méchants, des adjuvants, des opposants, des personnages. C'est, moi, je trouve ça très agréable à regarder.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mode de nouvelles séries qui sortent là, que ce soit sur Netflix ou sur Disney+, qui sont des séries entre guillemets à l'ancienne. Dans le sens où ils ne veulent pas être des surconcepts over-feuilletonnants, mais au contraire des histoires qui se regardent et qui se consomment bien. Et comme je pense à la série Star Wars
Mandalorian,
Witcher aussi, qui justement les gens disent ça fait un peu rétro. Et du coup, en fait, ça rappelle que, et on va en revenir justement, dans les années 90, il y avait des bonnes séries qui n'étaient pas forcément, on va dire, tout le temps feuilletonnantes ou tout le temps sérieuses. Qui arrivait à jouer sur plusieurs tons et à pas être que dans la parodie ou que dans le côté rétro. Et donc, du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'on y revient. Quoi.
C'est presque un retour au premier degré. C'est-à-dire qu'on a tellement habitué aux fictions au troisième, quatrième, cinquième degré.
Il n'y a pas de double ou de triple lecture.
C'est très clair, c'est très évident. C'est-à-dire que quand la série a besoin de nous faire comprendre que la scène en question, c'est une métaphore du deuil, le gamin se transforme en fantôme et observe la question de la mort et tout ça. Donc, c'est vraiment très, très premier degré. Alors, ça peut déstabiliser, c'est même peut-être un peu désagréable pour ça. Mais moi, ce que je trouve très agréable, mais c'est peut-être parce que nous sommes des vieux cons, c'est-à-dire qu'on retrouve un plaisir. Encore une fois, trilogie du samedi, comme tu dis, d'histoire, de plaisir du récit, de plaisir des personnages. Moi, j'ai très envie d'une saison 2, de savoir ce qui leur arrive, en fait, tout simplement.
Il va y en avoir une.
J'espère bien.
Ne spoilons rien, mais... Non, mais effectivement, tu as raison, même sur des concepts qui peuvent être difficiles à matérialiser à l'écran. Je pense, par exemple, à la jeune fille, l'adolescente, qui, donc, elle, a la clé qui lui permet de rentrer à l'intérieur de son cerveau, ses souvenirs, etc.
Et ce qui serait décide, le bordel si je faisais ça,
qui
moi.
Qui se décide à se débarrasser de sa peur. C'est-à-dire qu'elle elle emmène de son cerveau la créature qui est censée représenter la peur, elle la ramène dans le vrai monde et elle l'enterre. C'est un truc que je trouve assez génial, quand même.
Littéral.
Et du coup, elle devient complètement... sans peur, sans reproche et du coup sans tabou. Donc ça devient une toute autre personne.
Et c'est une vraie réflexion. C'est un vrai. Et c'est pour ça que je pense que d'ailleurs nos amis les milléniaux n'ont pas aimé la série parce qu'elle est au contraire peut-être trop premier degré.
On n'est pas des milléniaux ?
Non, je crois pas.
Si, moi, je suis bien sûr que.
Oui. On est des milléniaux, nous ?
On est fin milléniaux, mais un peu.
Génial, tout de suite.
Je croyais que les milléniaux, c'était ceux qui étaient nés dans les années 90, 2000.
Non, ça va à 82, je crois, ou 3.
C'est ton année de naissance.
Non. J'ai défini.
Je suis un millénial.
Et je précise aussi que la maman est jouée par cette comédienne qui s'appelle Darby Stanchfield, qu'on avait adoré dans Scandal.
Voilà.
Juste pour citer le.
Parce que j'avais besoin.
Scandal.
Voilà. T'as remarqué que j'ai toujours pas dit Molo Molito et que les auditeurs
ça
sont.
Ça va venir au bout d'un moment. Ça va venir. Convaincu ou pas, François ? Non, moyen. J'ai trouvé que vraiment ce que vous avez raconté, c'était super chiant. Voilà. Ça m'a pas fait envie.
Par la série, oui. Par vous, non.
Bon, ça s'appelle Lock and Key.
Moi, j'aimais beaucoup ce que faisait François Descraques avant qu'il parle.
Ah, oui.
Ça s'appelle Lock and Key et c'est disponible sur Netflix. Nous, on dit oui.
Ben, on dit oui.
Et François dit.
Dirais-je, à voir.
Ouais, on verra.
Il fait la tête de Télérama. Tu fais.
Non, mais vraiment, ça m'intéresse, vraiment. C'est juste que j'ai pas eu le temps, mais je l'ai pas vu. Je voulais pas critiquer une série que j'ai pas vue.
Je suis pas comme vous. Moi,
voilà. On l'a pas vu, pardon. On l'a pas vu, en fait. On parle, mais on l'a pas vu.
Allez, on passe maintenant au choix de notre invité. J'ai le droit de faire le « In every generation, there is a chosen one. She alone will stand against the vampires, the demons and the forces of darkness. She's the slayer. » J'ai toujours rêvé de faire ça.
Ah, c'est bien. La version anglaise serait mieux, non ?
Qu'il est drôle. Entre 1997 et 2003, Joss Whedon nous a régalé des aventures de Buffy et du Scooby Gang. Mais François Descraques, j'ai envie de vous demander série de science-fiction ou coming of age story ? La meuf n'a qu'une question en retour de Magneto.
Très clairement, coming of age story.
Elle est pourrie, cette question. On est d'accord.
Je l'adore. J'adore faire ça. C'est un peu comme la série de la maturité, mais ça viendra plus tard.
Donc oui, c'est vraiment une série sur l'adolescence, et surtout dans les premières saisons, ça parle vraiment bah, de tous les traumas de l'adolescence, mais à travers un filtre fantastique. Il y a un mélange de genres, voilà, quoi, qui est assez dingue, quoi. Donc, mais moi, ce qui me rend curieux dans cette série, c'est que c'est une série ben, avec laquelle j'ai pas vraiment grandi. C'est-à-dire que c'est une série que j'ai, comme beaucoup de gens, j'ai boudé d'abord. J'ai fait genre, mais qu'est-ce que c'est ce truc?
Est-ce que ce truc avec une fille, et, mais, des démons.
Mais vraiment, dire, vraiment, ouais, j'ai, j'étais le jeune con en mode, non, non, mais c'est pas pour moi, ça. Et à un moment, je sais pas, tout le monde arrêtait de me dire, non, mais vraiment, regarde, mais vraiment, regarde. Du coup, à l'époque, c'était l'époque des DVD, c'était les trucs qu'on mettait dans des dialettes.
Ah, en fait, d'accord, ouais, ok, ouais. Je vois pas.
Dans une crêpière.
Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai regardé ça et j'ai fait genre, ah, mais en fait, c'est la meilleure série de tous les temps.
Elle vient de lancer une vanne qui s'est écroulée au sol.
Une blague bretonne.
Ouais, comme un crash. Hein.
Ouais, je m'en fous, moi. Tu fais des blagues régionales. Pas ça après.
Tu l'as Alain Gilopétré de la vanne, c'est ça.
Exactement.
Il y a un côté, on est obligé de faire des blagues bretonnes au moins une fois.
Ouais, voilà, oui, bien sûr. Kenavo.
Mais alors, du coup, ça veut dire que tu as repris par ordre chronologique ou tu fais partie de cette génération qui, à un moment, quand ça a commencé à devenir très noir, parce qu'il y a eu un moment, il y a eu un tournant dans Buffy où on a fait, oh, du donc, et du coup, tu as fait un retour après sur les premières saisons.
Non, en fait, je l'ai loupé à la sortie de à la télévision quand il y avait des rendez-vous ponctuels. Et c'est vraiment en DVD, juste à la fin, pratiquement, ouais, en 2003, en fait, 2003-2004, vraiment, au moment où ça se termine, que là, je les regarde tous d'un coup, mélangé aussi à Angel, le spin-off de la série. Et vraiment, là, j'ai fait genre, ah ouais, d'accord, en fait, il y a un vrai concept qui est fait pour que, si t'es, enfin, c'est Joss Whedon qui disait qu'il a fait exprès de l'appeler Buffy tueuse de vampires, enfin, en anglais, Vampire Slayer, pour que les gens qui sont un peu cons comme moi ou un peu prétentieux ne regardent pas. Donc le titre est fait exprès pour être un peu débilos. Ouais. Et en fait, quand tu te rends compte que ben en fait, ça parle de trucs très sérieux, et en plus ça devient hyper dark, et après il y a des épisodes vraiment mais, terrifiants sur la, en termes de maturité, etc., en termes de sujets que ça aborde et tout. Vraiment, voilà quoi. Il veut te faire rentrer par un prisme vraiment très léger, très parodique, un peu au début, mais en fait pas du tout.
Cela dit, c'est plutôt un très bon titre, hein, puisque ça parle d'une fille qui s'appelle Buffy, qui est tueuse de vampires. Mm. Moi, je trouve que le titre est plutôt bien choisi jusque-là.
Ouais, mais pas que.
Ça, vous voudriez appeler ça comment, sinon ?
Non, mais en fait, c'est vrai que tout est fait pour que tu dises...
Sunnydale ?
Sunnydale, oui, en fait, c'est ça.
C'est Riverdale.
Non, c'était Riverdale avant Riverdale. Mm. Mais vraiment, voilà, je trouve ça vraiment brillant comme série. C'est surtout une série qui a beaucoup influencé beaucoup d'autres showrunners. Je pense que c'est aussi... pour Doctor Who, il a été vachement influencé par ça. Donc voilà, c'est à la fois une série unique, c'est-à-dire qu'il y a très peu de séries qui se ressentent. Enfin, peut-être maintenant, là, j'ai l'impression que sur Netflix, les Sabrina, tout ça, essayent un peu de reprendre un peu ce concept-là à leur façon. Mais pendant 15 ans, c'est une série unique, incomparable. Quoi.
Et alors, moi, je m'en souviens vraiment comme de la première série où l'héroïne a grandi, vieilli en même temps que moi, et avec des préoccupations de plus en plus lourdes et de plus en plus dark. Et moi, c'était la première fois que je regardais une série où il se passait ça en même temps que moi, je vieillissais, quoi.
Ben, en fait, c'était
assez bizarre.
C'est ça qui est dingue, c'est que l'innocence des héros de la première saison, où ils sont vraiment lycéens, elle est pop-pom girl, c'est très léger, et tout ce qui lui arrive dans sa vie est tellement dramatique. Elle perd sa famille, elle perd sa mère... Et aussi,
on lui crée une petite sœur qui sort de nulle part.
Alors,
clé.
Il y a des trucs complètement.
Tu perds une mère, mais t'as une petite sœur.
La série se permet des trucs quand même hallucinants.
Mais en fait, ça qui est génial, c'est que ça arrive à mélanger des problèmes hyper du quotidien, genre sur qu'est-ce que tu fais après le lycée si t'as pas eu des bonnes notes, et ben t'es obligé d'avoir un taf de merde dans un fast-food. Il y a des démons qui veulent envahir ta ville, et elle les mélange au même, c'est-à-dire que les deux les deux aspects de la série sont traités avec le même niveau de sérieux, tout en étant conscient que c'est des vampires, c'est un peu débile, quoi. Mais donc il y a donc je sais pas à quel point c'est le second degré, c'est là où c'est très très bien fait.
Il y a un côté camp en fait un peu dans la série, d'ironie sur l'ironie. Et en même temps, c'est utiliser la série B, la série Z, parce qu'en gros, les maquillages des vampires, ça vient un peu de là. Et en même temps, de réutiliser cette série B et cette série Z pour en faire un conte philosophique, des questionnements. Ça, c'est quand même très, très nouveau et très malin de la part de Joss Whedon. C'est-à-dire d'avoir utilisé le bis, ou en tout cas quelque chose qui soit de l'ordre du ridicule ou de la pop culture pure, et d'en faire un terreau de réflexion, de questionnement. C'est quand même une des premières grandes séries queer mainstream, où on a quand même le personnage d'Alison Hannigan, donc, qui devient une sorcière, qui devient, en tout cas, qui prône son homosexualité dans la série et qui la défend contre les personnages. Et ça devient vraiment quelque chose d'assez fort et c'est un symbole assez puissant. Moi, je suis toujours très étonné.
Et puis, héroïne de cet acabit autosuffisante
oui.
Et meneuse. Et il y en avait pas eu.
Oui, il y en avait très peu, mais je suis toujours très étonné comme Buffy, en fait, c'est devenu aujourd'hui une sorte de socle commun à une génération qui se reconnaît notamment dans ces questions de progressisme, de féminisme. C'est-à-dire que c'est vraiment une sorte de bible pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis très étonné, par exemple, de voir à quel point Buffy a irrigué la culture gay, par exemple. C'est devenu une héroïne de la culture gay. Et c'est pas au départ étonnant, et c'est pas au départ le principe, mais c'est qu'il y avait peut-être des valeurs de diversité dans cette série.
Il y a des valeurs de diversité sans pour autant être, on va dire, un argument commercial. Justement, c'était ça la blague. C'était non, ça parle de vampires, vous allez voir et tout. Et en fait, à travers ce masque de série B rigolote, il y a des. Voilà, il y a de la diversité, il y a des thèmes, surtout sur le féminisme, surtout sur la. Comment la série se conclut sur pourquoi Buffy est une tueuse de vampires, sachant que c'est voilà, un truc qui a été imposé par des hommes et tout, donc à la fin elle se libère de ce poids-là. Mais même pour revenir dès le départ, le principe de départ, dans la première scène, c'est ça, c'est de montrer, ok, d'habitude, la pop-up girl qui se balade dans les couloirs vides, c'est la première victime d'un film d'horreur, et ben elle, c'est elle qui tue les monstres.
Il y a vraiment un jeu d'inversion qui est quand même très très surprenant pour l'époque. C'est vraiment une série pop au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qui fait éclater des choses et qui éclate. Il y a vraiment quelque chose de premier degré en fait.
Même sur ces histoires d'amour, c'est-à-dire que ça part au début sur une sorte de variation
de mal toxique,
autour de Roméo et Juliette, Angèle, c'est impossible, machin, etc. Et pour finir avec un Spike qui est quand même.
Oui, mais
c'est un degré de toxicité.
Oui, mais complètement.
Mais qu'elle réussit à rendre finalement
à domestiquer,
héroïque,
et en même temps à le friendzoner jusqu'au bout. Donc toutes les histoires d'amour dans Buffy sont tragiques aussi. Ça, c'est un truc qui est. Il y a pas vraiment de happy end pour aucun personnage.
Zéro rédemption, zéro happy end.
Vraiment, c'est si tu regardes le début, tu dis ah bah c'est sûr, elle va sortir avec le vampire ténébreux à la Twilight. Ben en fait, ça se passe pas du tout comme c'est prévu et c'est même pire ce qui se passe. Enfin c'est.
Mais il y a un G.I. Joe aussi à un moment où.
Aiden, non. Aiden, c'est dans Sex and the City.
C'est le même personnage.
C'est le même personnage avant ça. Comment il s'appelle?
C'est son copain, à la fac et tout. Et pareil.
Il revient pas en mutant.
C'est le méchant qui est le mutant. Adam, c'était le méchant.
Adam, c'est ça.
Mais et en plus, il y a des trucs tellement pointus, mais bien faits, comme un personnage qui, à la base, est un figurant, mais littéralement un figurant dans les premières saisons, qui est un gars qu'on bouscule tout le temps, qui est juste une espèce de nerd en mode ouais, lui, il se fait tout le temps bousculer, donc c'est Jonathan, je crois, qui, en fait, à force des saisons, a de plus en plus de dialogues, et il devient le méchant d'une des saisons, tellement qu'il dit bah oui, en fait, j'en ai marre, depuis, ça fait 4 saisons que je me fais bousculer et qu'on me traite comme de la merde.
C'est celui qui se fait peler, on est d'accord. Hein.
Et après, ça se termine très mal pour lui, au final, donc.
C'est lui que Willow retourne et pèle à vif. On peut parler de cette scène. On est quand même dans une série qui était marketée à la base comme une série teen. Il y a quand même une sorcière qui retourne la peau d'un mec intégralement. Je me souviens vraiment visuellement, il y avait un truc de
Mais est-ce que c'est bien teen au sens où on l'entend? C'est quand même plutôt une série pour les, on va dire, 15-25 ans qu'une série pour les 10-12 ans, non?
Tu peux encore rentrer dans
Mais on est vraiment sur le passage à l'âge adulte. Il y a vraiment des choses qu'on a un peu, qui se sont un peu d'ailleurs développées aujourd'hui, mais qu'on n'a pas retrouvé la grâce de ces séries-là. C'est-à-dire, Sex Education, c'est super, c'est une super série, mais ça n'a pas cette légèreté. En fait, il y a un côté très léger, très profond en même temps dans Buffy.
C'est ça, c'est que toutes leurs actions ont des conséquences. Et bon, le fait d'être une tueuse de vampires qui passe ses nuits à tuer des vampires fait qu'elle a des mauvaises notes. Et fait que il y a des conséquences. Elle peut pas des bonnes notes et du coup elle est virée de sa fac. C'est un truc que je trouvais intéressant parce que dans beaucoup de séries où tu sais pas dans des lycées, tu as l'impression que la scolarité n'existe pas quoi. Et là en fait ils te disent bon voilà, on va pas vous faire des scènes entières de cours et des examens, mais les personnages vont avoir une évolution surtout après le lycée qui va être la vraie vie. À savoir les petits jobs et tout.
Et la dépression de l'âge adulte.
Exactement, et surtout de la responsabilité. Et Buffy devient un personnage très dépressif dans la dernière saison, vraiment.
Elle va pas bien du tout. Histoire avec Spike, on est quand même dans une espèce d'histoire toxique d'autoflagellation, de s'imposer un truc pas bien.
Et puis sans trop spoiler, il y en a quand même un personnage qui littéralement décède pour être ramené malgré lui à la vie, comme une sorte de série qu'on aurait rebooté.
Et surtout, qui refuse, qui en veut aux gens
de l'avoir ramené à la vie.
Tu dis, mais j'étais mieux en morte.
Le nihilisme total de la série. Pour les adolescents.
Mais c'est ça.
Non, vraiment. Et la galerie de personnages, même annexes, qui s'enrichit au fur et à mesure des saisons, comme tu le disais, ils ont tous un vrai propos. Il n'y a pas de personnages accessoires.
Et
vraiment.
à l'aide, ce qui est au départ, ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu le mec. Parce que d'habitude, dans une série, il y a toujours la meuf, là c'est le mec.
Ouais, mais alors quelle figure du mec? C'est ça, mais, qui est très étonnant. Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le mec au début, justement, qu'on considère comme étant un peu inutile, un peu qui n'a pas de pouvoir. Alors, ouais. Il n'est ni magicien, ni tueur de vampires.
Ni bibliothécaire.
Ni bibliothécaire. Donc, du coup, il est le gars qui conduit des fois le van, qui aide un petit peu, mais qui devient très profond au fur et à mesure, qui sait sa place, ouais. Qui sait qu'il est quand même utile, qui sait que ben, sans lui, le groupe s'éclate. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un personnage masculin qui est pas du tout l'alpha mâle, ouais. Mais jamais quoi.
Alors on y va, on pose la question à quel personnage on s'identifie le plus, François?
Bah Alex.
Je suis évidemment, moi je rêverais d'être Buffy, mais évidemment je suis Giles, hein, le pourri derrière les bouquins, hein, à peu près.
Moi je suis Willow.
Ah bah bien sûr.
Ah bah oui. Voilà. Tout le monde veut être Willow. Ouais.
Tous vous pelez en un coup de.
Dracarys.
Après le mec parfait, c'est un peu.
Mais j'aimais bien Anya. Je suis peut-être un peu Anya, qui est super énervante, mais qui est hyper drôle.
Anya, c'est la psychopathe qui a une rédemption.
Il y avait Face, il y avait l'autre.
Ah, elle était bien, Face, l'autre tueuse.
L'autre tueuse, elle était...
La tueuse parallèle.
Donc voilà, il y a tellement de personnages forts.
Mais même l'amoureux loup-garou était sympathique. Oui, je trouve même les personnages masculins avaient quelque chose de...
De touchant.
Ouais,
non, vraiment. Et surtout, il y a toujours un côté... Vu que ça joue sur des clichés un peu vieillots, bon, puis il y a un personnage qui, à un moment, un méchant qui arrive, et il est connu comme étant invincible parce qu'il dit 1000 épées ne peuvent pas me battre. Un truc comme ça, ou une armée de 1000 soldats ne peuvent pas me battre. Et du coup, tout le monde dit il est invincible, vu que 1000 soldats ne peuvent pas le battre, il vient du Moyen-Âge. Et donc Buffy, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bazooka, et ça vaut plus de que 1000 soldats, et elle le défonce. Elle dit, en fait, il vient d'une autre époque, il n'a plus de pouvoir, c'est de la merde.
Mais je crois que ce qui était aussi un peu cool, c'est qu'on savait que cette héroïne, donc Sarah Michelle Gellar, pratiquait elle-même les arts martiaux, en fait, et qu'on savait qu'elle elle est certainement pas à hauteur de ce qu'on lui faisait faire. Mais il y avait un truc qui était un peu cool, en disant... Hey,
à chaque épisode, je veux dire, c'était une série hyper ambitieuse, c'est-à-dire que vraiment, chaque épisode, il y avait un monstre différent, il y avait 26 épisodes par saison, donc ça, c'était une autre époque, et elle se battait, il y avait
des mythologies différentes, des personnages qui apparaissaient, on se rappelle tous, évidemment, de l'épisode muet, qui est vraiment totalement génial, et il y a vraiment des idées, un peu comme la quatrième dimension, on avait l'impression qu'on rentrait dans des idées, des
histoires. Épisode musical aussi.
Épisode musical, évidemment.
Tu étais un... Peut-être le premier épisode musical d'une série, on va dire, qui n'était pas musical, et qui a donné un peu, qui a inspiré plein d'autres séries à faire pareil. Mais en plus, lui, ce qu'il a fait, Josh Whedon, c'est qu'il l'a justifié dans son histoire. C'était pas juste un délire, c'était genre, non, il y a une malédiction, les personnages sont obligés de chanter tout le temps, du coup, c'est de la merde, du coup, ils disent tout ce qu'ils pensent, du coup, les gens découvrent des choses, des secrets qu'ils ne devaient pas se dire parce qu'ils le disent en chantant. Et en plus, c'est des musiques superbes. Enfin bref, tout était...
C'est très très malin en fait. Ouais. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que même à revoir aujourd'hui, il y a un côté très malin qui n'a pas bougé. Alors qu'il y a d'autres séries qui étaient très chouettes à l'époque, qui ont un peu vieilli. Là, il y a une manière de Joss Whedon d'attraper la pop culture de manière toujours par le bon prisme en fait. C'est vraiment une série qui ne vieillit pas, ou en tout cas très peu.
Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu Buffy contre les vampires, sachez que c'est mal... Et qu'il serait quand même pas mal de le rattraper. Mmh. Ce sera la conclusion de cette conversation.
Surtout que là, ils ont sorti une saison 8 en dessin animé, adapté de la BD, machin et tout, donc on peut en DVD. Mmh. Mais donc l'histoire, elle a un peu continué après l'arrêt de la série. Et je crois que vraiment, je vois des gens sur Instagram et tout. Re-binger la série, redécouvrir la série, des vrais jeunes, pas comme nous.
Des vrais jeunes. Je le prends hyper mal.
Mais ils aiment bien et tout, et franchement.
Mais c'est pas une influence aussi quand on. Tous tes travaux, il y a un truc de Buffy.
Mais évidemment, c'est sûr que ça m'a influencé sur ce mélange de genres, sur à la fois. Assumer un concept qui peut paraître ridicule, mais en même temps prendre au sérieux le concept et les personnages, surtout. Ça, je pense que c'est tous les personnages.
Dans Le Visiteur, il y a vraiment ça.
C'est ça, c'est qu'on a beau avoir un concept un peu étrange et assumé, un peu débilos. On s'est dit, et si on prenait la blague au sérieux, et c'était ça la blague sur Le Visiteur du Futur, c'était au départ, c'était limite un court-métrage sur un mec qui vient du futur qui dit j'ai passé de canette, et on s'est dit ok, d'où il vient, on veut savoir d'où il vient, ok, bon, quelle saison. et de prendre la blague au sérieux, c'est un truc qui me fascine, et on se rend compte que derrière la blague il y a des thèmes, il y a quelque chose derrière les apparences qui permet d'être divertissant et en même temps de raconter des vrais trucs sans pour autant avoir la prétention d'être, voilà, quoi, d'être larmoyant tout le temps.
Ou politique. Ou
voilà, exactement. Quoi. Et après, justement, de surprendre les gens et de dire, et là, vous allez chialer. Et dans Buffy, l'épisode la mère.
Ah bah oui.
Mais c'est,
il
est traumatisant, il est terrifiant parce qu'il n'y a rien de fantastique. Parce que c'est juste un...
Ça devient du Bergman.
Bah, les deux traumas, ouais, c'est celui-là, c'est l'épisode de la maman et l'épisode de Tara.
Oui, aussi, pareil, une violence tellement...
Soudaine, quoi. Ouais, enfin, voilà. Un truc un peu genre... Ah,
et pas magique.
Okay.
Pas du tout magique.
Non, pas du tout.
Et c'est la vie, les gars, la vie, bienvenue.
Voilà. Non,
c'est assez terrible.
Et ça, c'est là où, justement, une série avait à t'accrocher quand... tu penses l'avoir compris, et en fait, non, et il repousse les codes.
Mais effectivement, quand il y a ce côté un peu zinzin, que d'un seul coup, il y a une incursion hyper violente d'un réel très super terre à terre. Ouais. Oh là là. Et on se moque de moi parce que je fais des blagues de breton. Je préfère arrêter tout de suite.
C'était une blague de Roland McDan.
Ça, ouais.
Là, là.
C'est, oh non. Ouais. Ben, du coup, sans transition, avant de se quitter, on laisse la parole aux auditeurs qui ont certainement des trucs plus intéressants à faire que ces imitations horribles.
Ok, donc moi, ma série préférée, c'est Friends. En fait, je trouve que la force dans cette série, c'est que les personnages ont été construits avec de vrais traits de caractère, des vrais gimmicks, et leur évolution en fait dans toute la série est hyper respectueuse de ce qu'ils ont créé au départ. Il n'y a pas de revirement de situation complètement incongru, et c'est vraiment respecter le téléspectateur et les téléspectatrices. Ce que j'aime aussi, c'est que pendant tout le long de la série, on a toujours un et ou une préférée, et en fait, tout ça, ça évolue avec l'âge. Parce que ça traverse les générations, mais aussi avec le nombre de lectures. On s'en rencontre plus tard, des fois qu'on préfère en fait tel personnage qu'on avait un peu mis de côté. Et puis en fait, on est tellement tout le temps avec eux, et on s'identifie tellement que c'est comme une deuxième famille. On a l'impression qu'on les connaît, on est sûr même de les connaître et d'avoir tout fait avec eux. Et je pense que le secret d'ailleurs de leur amitié, c'est qu'ils ne se jugent jamais, en tout cas jamais sévèrement. Et oui, point bonus, c'est eux qui ont inventé le concept de friend zone.
Ce qui n'est pas complètement faux, n'est-ce pas, Ross Renan, pardon, excusez-moi.
Alors, je dois rétablir une vérité. Pour avoir posé plusieurs fois la question, on m'identifie beaucoup plus à Chandler qu'à Ross.
Non. C'est à cause des pulls, mais sinon, en vrai, t'es complètement Ross Geller. Mais on en revient, ceci dit, à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire de l'importance de bien traiter ses personnages.
C'est ça.
De ne pas faire n'importe quoi et de garder une psychologie qui reste cohérente avec ce qu'on nous montre dès le début.
C'est l'intérêt des séries. C'est-à-dire que plus que dans les films, où les films peuvent se tenir sur une intrigue forte d'une heure et demie, et des séries, tu peux avoir des mauvaises intrigues. Ou des intrigues que tu oublies, mais si les personnages sont pas forts, c'est une mauvaise série, c'est tout, quoi.
Non, mais surtout, en plus, tu te le prends pleine balle par les téléspectateurs. Moi, je me souviens que dans Friends, quand il y a eu la phase Joey et Rachel,
oh là là.
Oui, c'est
fou comment
ça peut pas.
Tout le public s'est dit non, ça ne marche pas, ce n'est pas possible, ce n'est plus les personnages tels qu'ils devraient. Enfin, et tout le monde était d'accord. Il y a personne qui a dit tout le monde dit non, c'est pas logique, c'est pas eux.
Mais moi, j'ai une théorie. Qui fait que, pour moi, Friends est responsable de notre dépression collective aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, Friends est vraiment la série qui nous a vendu l'idée que la vie d'adulte, c'était ça. C'est-à-dire que ce que je trouve, moi, c'est vraiment ma série préférée aussi. Donc, je trouve fascinant quand je regarde Friends, il n'y a aucun contrat social, il n'y a aucune contrainte sociale. Les personnages travaillent quasiment pas, ou quand ils travaillent, c'est une blague.
Si.
Non, c'est une blague.
C'est juste
quand
que tu ne sais pas quel métier fait Chandler. Mais après, c'est pas.
Mais justement, ça, c'est vraiment l'idée de la vie d'adulte la plus absurde, le métier dont on ne sait pas ce que ça signifie. Quand ils travaillent, c'est soit pour monter en carrière, et ce n'est absolument pas une contrainte sociale. Comment on peut vivre dans ces appartements-là à New York avec.
Les Geller, ils ont quand même un métier.
Non, mais surtout
professeur Geller, il est
oui, mais par exemple, c'est
Joey. Elle est cuisinière.
Joey, surtout le communal, tu travailles jamais.
Ouais, c'est une blague, en fait. Tout est une blague. Les relations sociales, les parents, c'est une blague. Tout est une blague. C'est vraiment une série qui crée l'idée que, finalement, la réalité, c'est joué. Moi, ce que je trouve fascinant dans cette série, c'est que ce sont vraiment des gens qui sont infantiles. C'est-à-dire, quand vous regardez la série avec un œil adulte, vous dites,
ils sont jeunes, ils sont comme.
Oui,
mais ce qui est triste, et c'est que quand on a découvert la série, on était jeunes, ils étaient plus vieux, du coup, on disait.
C'est ça la vie d'adulte.
Voilà. Et maintenant, quand on regarde, on est plus vieux qu'eux.
On est plus vieux qu'eux et on se dit, mais j'ai pas eu cette vie-là. Ouais. Pareil, il n'y a pas de notion d'intimité dans cette série. Pardon, mais moi, je vis dans un monde où quand on rentre chez moi, on tape à la porte et on rentre. Et donc, c'est fascinant parce que la série a provoqué. Oui, mais elle a provoqué une sorte de rêve, de réalité comme ça alternative. C'est pour ça que je la trouve magnifique cette série parce que c'est presque un antidépresseur.
Mais c'est un rêve commun.
Oui,
tout le monde l'a, tout le monde a ces codes-là, tout le monde a cet idéal-là.
Exactement.
Temps, personne à cette vie-là.
Et donc tout le monde déprime. Voilà. Et c'est fascinant comme ces personnages qui sont des archétypes, enfin qui sont des stéréotypes, sont devenus des archétypes. C'est-à-dire ouais. C'est vraiment, on peut limiter chaque personnage à un trait de caractère, et en fait, ils sont devenus des façons de penser le monde. Mmh. Aujourd'hui, dans un groupe, tout le monde cherche à savoir qui est Rachel, qui est Monica, mmh. qui est Chandler, oui.
qui est Ross,
qui est ça va. Et donc en fait, c'est génial comme une. Moi, je trouve que c'est le plus beau parcours d'une série. C'est comment une écriture stéréotypée devient une manière de penser le monde. Et pour moi, Friends. En gros, je comprends. Les gens qui n'ont jamais vu Friends, je crois qu'on peut pas se parler.
Mais t'inquiète pas, je suis Monica. Hein,
ah, c'est, bah, je sais, mais voilà, c'est pour ça que notre tandem est parfait.
Mais moi, qui est revu.
Oh là là, François, toi, vous êtes François, qui
pour Friends
qui, ouais. Oui.
Alors moi, justement, j'ai grandi avec Friends.
Alors moi, je suis Phoebe. C'est moi tranquille.
Je pense que je suis Chandler dans le sens. Le mec qu'on respecte pas, mais sinon j'ai redécouvert la série, là, j'ai re-regardé les épisodes ouais. un peu de façon un peu random, et c'est dingue comment certains aspects ont pas vieilli du tout. Il y a des répliques, des gags, des constructions ouais. narratives qui sont mais parfaites, vraiment c'est des leçons de scénario et de dialogue. Et puis des fois, il y a des trucs mais qui ont tellement mal vieilli, des blagues un peu grossophobes et tout ça, qui pff, voilà quoi, tu te dis ah ouais à l'époque ça suffisait quoi.
Genre, oui.
Voilà. Mais c'est intéressant de le voir avec ce double regard, de voir qu'est-ce qui est comme tu dis des archétypes qu'on retrouvera partout tout le temps. Et qu'est-ce qui était très années 90 et qui a fait que, ah ça, voilà, ce pull-là...
C'est marrant comme les créateurs de Friends avaient créé une série justement qui s'appelait Dream On, qui était une oui. série ouais. sur un type qui grandissait devant la télévision ouais, ouais. et qui pensait le monde à travers la télévision. Et en fait, Friends, ils ont ouais, réintégré ça, ouais. où en fait, il n'y a que des références. En fait, la seule chose qu'on a en commun avec ces personnages, c'est d'avoir les mêmes références pop culture. Et si vous regardez, dans chaque épisode, il y a une référence pop culture qui vous crée un lien avec eux.
L'épisode pyramide, je vous en supplie.
L'épisode pyramide est génial. La chaîne porno piratée.
Oui, bien sûr,
et en fait, ça crée comme ça, c'est-à-dire que le monde de Friends n'existe pas. C'est un monde qui est irréel. Mais le fait qu'on ait les mêmes références pop culture, le fait qu'on puisse croiser Jean-Claude Van Damme, eh ben, fait qu'on y croit. Et ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que ce qui prouve que c'est la pop culture qui crée le lien.
Ça joue en plus sur un truc complètement idiot. C'est-à-dire que dans les guests célèbres, il y a des mecs qui viennent et qui jouent. Eux,
oui, puis
Jean-Claude Van Damme,
ouais,
et puis t'as Suzy, Julia Roberts, ouais, la nana qui a maltraité génial. Chandler, quoi.
Mais surtout, il y a un truc que je trouve intéressant dans Friends et qu'on retrouve aussi dans How I Met, c'est ce côté où ça a beau se passer à New York, t'arrives à comprendre les codes de New York, ouais. comme si, à te les approprier, comme si tu y vivais, parce que finalement, à Paris, c'est passé différent, ou dans les grandes villes, mm-hmm. où il y a ce côté genre, bah, tu vis dans un petit appart, tes parents sont plus loin, en banlieue, machin, dans une grande maison. Du coup, ça devient un peu des codes universels, alors que déjà, c'est une série new-yorkaise qui n'est pas du tout tournée à New York.
Oui, c'est ça.
Ils ont vraiment genre deux rues de New York et c'est tout, et des stock shots. Donc, du coup, y a, voilà, c'est ça, c'est un univers imaginaire. Ouais, comme tu...
Bon, et ben, on va conclure sur Friends.
Ben oui.
Tout le monde était content.
I'll be there for you, Charlie.
Ouais, I'll be there for you. Enfin,
voilà.
Ah, va épouster tes dinosaures, on en parlera plus tard. Merci beaucoup François Descrac, merci beaucoup Renan Cros.
De rien, Charline.
Eh bien, We Love Series, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un autre sujet et un autre invité.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.